Bonjour Historama, l'histoire d'un jour. Aujourd'hui, le 18 juin 1940, l'appel du général de Gaulle. Le coup de téléphone le plus dramatique de l'histoire de France s'échange entre Bordeaux et Londres, le 16 juin 1940 à 16h40. D'un côté, en France, se trouve Paul Reynaud, président du Conseil. De l'autre, en Angleterre, le général de Gaulle, alors sous-secrétaire d'État au ministère de la Guerre. Depuis deux longues heures, il attend la fin du Conseil des ministres britanniques. Soudain, les ministres anglais, Winston Churchill à leur tête, pénètrent dans le bureau où il se tient. « Nous sommes d'accord », lance le Premier ministre britannique en lui tendant le texte du projet d'union franco-britannique. L'énorme morceau, selon l'expression de Churchill, élu par de Gaulle avec un enthousiasme extraordinaire, selon les mots du chef du gouvernement britannique. De Gaulle obtient aussitôt la communication téléphonique avec Bordeaux. Lorsque le téléphone sonne dans le cabinet du président du Conseil, au quartier général de la 23e région militaire, Reynaud se trouve avec l'ambassadeur d'Angleterre, Sir Ronald Campbell, accompagné du général Spears, assurant la liaison entre les deux gouvernements. Il note, sous la dictée de son sous-secrétaire d'État, un texte stupéfiant qui proclame que, désormais, la France et la Grande-Bretagne ne sont plus deux nations, mais une nation franco-britannique indissoluble. 6 membres du gouvernement français sur 17 sont disposés à envisager le projet d'union franco-britannique. Philippe Pétain et Camille Chautan, tous deux vice-présidents du Conseil, et la plupart des ministres sont partisans de l'armistice. Mis en minorité, Reynaud est contraint à la démission. De Gaulle apprend la chute du gouvernement à 21h30, au moment de son arrivée à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. Il espérait que la proposition d'union avec la Grande-Bretagne soulèverait l'enthousiasme du cabinet. Le président de la République, Albert Lebrun, demande au maréchal Pétain de constituer le nouveau gouvernement. De Gaulle ne se fait plus aucune illusion. C'était la capitulation certaine, écrit-il, en se refusant à employer le mot d'armistice. « Ma décision fut prise aussitôt, je partirai pour Londres dès le lendemain matin. » Il se rend auprès de Reynaud pour lui communiquer sa décision. « Je le trouvais sans illusion sur ce que je devais entraîner l'avènement du maréchal et d'autre part comme soulagé d'un fardeau insupportable. » Il me donna l'impression d'un homme arrivé à la limite de l'espérance. Ceux-là seuls qui en furent témoins peuvent mesurer ce qu'a représenté l'épreuve du pouvoir pendant cette terrible période. L'intelligence de M. Paul Reynaud, son courage, l'autorité de sa fonction se déployaient pour ainsi dire à vide. Il n'avait plus de prise sur les événements déchaînés. En traversant le hall de la préfecture, Spears et Sir Ronald Campbell le retrouvent. Les deux Anglais estiment que l'endroit est mal choisi pour délibérer. Ils poursuivent la conversation dans une chambre de l'hôtel Montré. Là est prise la décision souhaitée par de Gaulle, puisque Reynaud ne veut pas partir pour Londres, lui reprendra dès le lendemain l'avion pour l'Angleterre. Après avoir reçu un viatique de 90 000 francs prélevés sur les fonds secrets, de Gaulle, accompagné de son officier d'ordonnance, le lieutenant de Courcelles, se rend à l'aéroport. Après une escale à Jersey, son avion se pose sur l'aérodrome londonien de Heston dans l'après-midi du 17 juin. « Tandis que je prenais logis, raconte de Gaulle, et que Courcelles, téléphonant à l'ambassade et aux missions, les trouvait déjà réticentes, je m'apparaissais à moi-même seul et démuni de tout, comme un homme au bord d'un océan qu'il prétendait franchir à la nage. L'ambassade de France est d'autant plus réticente que le jour même à 12h30, Pétain a demandé l'armistice. Aussitôt arrivé à Londres, Pierce rejoint Churchill pour lui annoncer la présence du général. Le Premier ministre est d'abord dubitatif, mais quelle influence, quel prestige peut avoir un général inconnu sur le peuple de France? J'espérais voir arriver un grand homme politique estimé de tous, quelqu'un dont le nom aurait été suivi. Il poursuit « Si nous avions auprès de nous un leader de la droite française, répond Spears, toute la gauche en France aurait pris ce prétexte pour se retirer du combat. La droite aurait fait de même si nous avions un politicien de gauche. Il vaut mieux un inconnu de qualité. De Gaulle, un militaire résolu à gagner la guerre à tout prix, me semble l'homme que nous cherchons. Il a un grand nom. » Churchill enfonce la tête dans les épaules et ne dit plus rien. En prenant connaissance du message de Pétain, il estime que la première chose à faire était de hisser les couleurs. La radio s'offrait pour cela. Dans l'après-midi du 17 juin, j'exposais mes intentions à M. Winston Churchill, naufragé de la désolation sur les rivages de l'Angleterre. Qu'aurais-je pu faire sans son concours? Il me le donna tout de suite et mit pour commencer la BBC à ma disposition. C'est en taxi que le général, en gants blancs et en grande tenue, accompagné du lieutenant de Courcelles, arrive à la BBC le 18 juin 1940. Il est accueilli par Spears et le directeur de la radio britannique. Deux Français sont là, Jean Marin et Jean Oberlé. Elizabeth Barker, journaliste de The European News Talks, conduit De Gaulle vers le studio. « Je vis un homme immense, marchant à grands pas, dans de longues bottes cirées, note-t-elle. J'entends encore sa voix grave. Dans le studio, il y avait une table ronde, recouverte d'un tapis, avec le micro au milieu. Moi, je me tenais debout devant la porte d'entrée. » Le général paraissait à la fois calme et tendu, son visage était comme figé, mais il ne cessait de bouger légèrement la tête. Il regardait fixement le micro, comme s'il pouvait voir au-delà de l'appareil, puis De Gaulle lance le texte historique qui se termine par cet appel vibrant. « Moi, général De Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français » qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver avec ou sans leurs armes, j'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialisés des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Rares sont ceux en France qui entendent le célèbre appel, mais le texte quelque peu tronqué est reproduit par les journalistes marseillais et par le Progrès de Lyon. Le lendemain, le ministère de la Guerre ordonne à De Gaulle de rentrer en France. Le 22 juin, sans réponse du chef de la France libre, le gouvernement annule sa nomination au grade de général de brigade à titre temporaire. Il soumet également à la signature du président de la République un décret relatif à sa mise à la retraite par mesure disciplinaire. Le 23 juin, il est admis d'office à faire valoir ses droits à la retraite. Le 2 août, à Clermont-Ferrand, le Conseil de guerre de la 13e région militaire condamne à la peine de mort et à la dégradation militaire le colonel breveté d'état-major en retraite, De Gaulle Charles-André-Joseph-Marie, sur le jugement, Pétain trace de sa main ces mots, ne sera pas exécuté. Nous retrouvons Historama dans un instant pour la chronique littéraire, mais avant cela, nous allons marquer une pause musicale avec Daniel Guichard. Nous écoutons l'un de ses plus grands succès, La tendresse.
La tendresse. C'est quelquefois ne plus s'aimer, mais être heureux de se trouver à nouveau deux. c'est refaire pour quelques instants un monde en bleu, avec le cœur au bord des yeux. La tendresse, la tendresse, c'est quand on peut se pardonner sans réfléchir, sans un regret, sans rien se dire. C'est quand on peut se séparer sans se maudire, sans rien casser, sans rien détruire. La tendresse, la tendresse. La tendresse, c'est un geste, un mot, un sourire, quand on oublie que tous les deux on a grandi. C'est quand je veux te dire je t'aime et que j'oublie qu'un jour ou l'autre l'amour finit. La tendresse.
Vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour, la chronique littéraire, un jour trois livres, aujourd'hui ce sera deux livres, deux parcours de vie, à commencer par Paul Ricard, Le fabuleux destin d'un enfant de Marseille, c'est signé Robert Murphy, c'est publié aux éditions Albin Michel. Paul Ricard voit le jour le 9 juillet 1909 à Sainte-Marthe, l'un des quartiers de Marseille situé au pied du massif de l'Étoile. Passionné de peinture, il suit les enseignements de l'école des beaux-arts de la cité phocéenne. Il est inspiré par Salvador Dali, entrepreneur dans l'âme. Paul Ricard lance en 1932 son propre pastis qui connaît rapidement un franc succès. Son sens inné de la publicité contribue au rayonnement de la marque qui atteint Lyon dès 1934. Patron social, il favorise la participation des employés dans l'entreprise qui compte 600 collaborateurs à la veille de la Seconde Guerre mondiale. La nouvelle réglementation sur les boissons alcoolisées édicté par le gouvernement de Vichy, stoppe brutalement ses activités. Il faut se réinventer. En 1940, Paul Ricard fonde une exploitation agricole à Méjane, dans les marais de Camargue. Il y développe la culture du riz. À la Libération, il reprend la production et la diffusion du véritable pastis de Marseille. Malgré la loi du 6 janvier 1951 qui interdit la publicité pour les spiritueux, la croissance est exponentielle. La société est introduite en bourse en 1962. 12 ans plus tard, elle fusionne avec Pernod, son principal concurrent. En 1950, Paul Ricard acquiert l'île de Bandor face à Bandol, qu'il aménage, puis en 1958, l'archipel des Ambièzes. Il crée un institut océanographique dirigé par Alain Bombard. Il est également le mécène des navigateurs Alain Colas et Éric Tabarly. Intéressé par le cinéma, il produit de nombreux films. En 1968, il se retire de la gouvernance de l'entreprise confiée à son fils Bernard. Paul Ricard s'installe dans le Var, à Signes, dont il est le maire de 1972 à 1980. Il construit le circuit du Castellet où se déroulent des grands prix moto et automobile. Décédé le 7 novembre 1997, il repose sur la pointe des Ambièzes face au grand large. Paul Ricard, Le fabuleux destin d'un enfant de Marseille, c'est signé Robert Murphy et c'est publié aux éditions Albin Michel. Je vous recommande chaudement cette lecture qui est très instructive. Comme si tu étais toujours là, de Marie-Paul Bell aux éditions Plon. Alors, c'est un livre qui est sorti au début de l'année 2020, mais avec la situation sanitaire, le Covid et de nombreuses émissions qui n'ont pu être enregistrées, je ne vous le chronique qu'aujourd'hui. Dans ce livre émouvant et très personnel, remarquablement préfacé par Serge Lama, la chanteuse Marie-Paul Bell rend hommage à Françoise Malégeorris, qui fut la parolière de nombreuses de ses chansons et dont elle a partagé la vie durant plus d'une décennie. Femme de lettres, elle est la fille de l'avocat Albert Lillard, ministre belge de la justice. Elle naît à Anvers le 6 juillet 1930. Figure de la vie parisienne, Françoise Malégeorris avait ses habitudes d'écriture aux deux Magots à Saint-Germain-des-Prés. Elle obtient le prix Fémina pour l'Empire céleste, élue à l'Académie Goncourt en 1971, elle y siège jusqu'à sa démission pour raison de santé en 2001. Elle est également membre de l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique, où elle occupe le fauteuil de sa mère, la dramaturge et romancière Suzanne Lillard. Ce livre touchant est parsemé d'extraits de correspondances, de textes, de chansons et de poèmes qui sont autant de preuves de l'affection entre Françoise et Marie-Paul. À travers les pages sont évoquées leur tendre complicité, leur partage créatif et leur intimité dans leur spacieuse maison d'Arcy, non loin de Compiègne. Leur séparation, survenue en 1981, est traitée avec une grande pudeur. Elle laisse place à une immuable amitié amoureuse. Le décès de Françoise Malégeorris le 13 août 2016 plonge l'interprète de la Parisienne dans le vide de l'absence que ses pages tentent d'exorciser. C'est à lire avec enthousiasme. « Comme si tu étais toujours là » de Marie-Paul Bell, c'est publié aux éditions Plon. Ainsi s'achève cette émission Historama. Nous nous séparons en chanson après avoir remercié Lucas qui l'a réalisé. C'est toujours Daniel Guichard et nous écoutons un autre de ses grands succès, Mon Vieux.
Dans son vieux par-dessus râpé, il s'en allait l'hiver, l'été, dans le petit matin frileux, mon vieux. Il y avait qu'un dimanche par semaine, les autres jours, c'était la graine qu'il allait gagner comme on peut, mon vieux. L'été, on allait voir la mer. Tu vois, c'était pas la misère, c'était pas non plus le paradis. Eh ouais, tant pis. Dans son vieux par-dessus râpé, il a pris pendant des années le même autobus de banlieue, mon vieux. Le soir, en rentrant du boulot, il s'asseyait sans dire un mot. Il était du genre silencieux, mon vieux. Les dimanches étaient monotones, on ne recevait jamais personne. Ça ne le rendait pas malheureux, je crois, mon vieux. Dans son vieux par-dessus râpé, les jours de paye, quand il rentrait, on l'entendait gueuler un peu, mon vieux. Nous, on connaissait la chanson, tout y passait, bourgeois, patron, la gauche, la droite, même le bon Dieu, avec mon vieux. Chez nous, il n'y avait pas la télé. C'est dehors que j'allais chercher, pendant quelques heures, l'évasion. Je sais, c'est con. dire que j'ai passé des années à côté de lui sans le regarder. On a à peine ouvert les yeux, nous deux. J'aurais pu, c'était pas malin, faire avec lui un bout de chemin. Ça l'aurait peut-être rendu heureux, mon vieux. Mais quand on a juste 15 ans, on n'a pas le cœur assez grand pour y loger toutes ces choses-là. Tu vois, maintenant qu'il est loin d'ici, en pensant à tout ça, je me dis, j'aimerais bien qu'il soit près de moi. Papa.
Oh,